Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Pour comprendre ce que pouvait être la personnalité et l'existence d'une princesse royale au XVIIe siècle, il n'est sans doute pas de meilleur exemple que Louise de Bourbon-Condé, duchesse du Maine, petite fille du grand Condé et épouse de l'un des fils naturels de Louis XIV. Faisant la pluie et le beau temps sur son petit domaine de Sceaux, elle crut qu'elle pouvait se comporter en reine à la cour de Versailles. Illusion d'une ambitieuse, d'une reine de pacotille, que les événements allaient ramener à la réalité. Comme par bonheur, il n'est guère de mémoire et de correspondance de l'époque où il ne soit question d'elle, nous sommes abondamment renseignés sur tout ce qui la touche. Dans cet épisode en deux parties, rendons-nous chez Louise de Bourbon-Condé, duchesse du Maine, belle-fille du roi Soleil, nymphe de Sceaux et conspiratrice en carton-pâte. Première partie, petite fille du grand Condé, elle épouse un fils de roi. Nous sommes à Versailles, le mardi 18 mars 1692. Ce soir, à 7 heures, il y a appartement à Trianon. L'appartement, c'est une grande soirée où l'on ne danse pas. Il y a de la musique dans un des salons, des rafraîchissements dans un second, et les autres pièces sont garnies de tables préparées pour toutes sortes de jeux. Dans ces réunions, on est prié d'oublier l'étiquette. Chacun fait ce qui lui plaît, joue avec qui il veut. Or, ce soir, Louis XIV est là. C'est exceptionnel, car il n'apparaît plus que fort rarement dans ce genre de réunion. Il s'attarde même assez longtemps pour présider l'une des tables du souper. Il est vrai que ce n'est pas un jour comme les autres. Demain, il marie son fils, le duc du Maine, l'un des enfants naturels qu'il a eu de Madame de Montespan, avec la petite Anne-Louise Bénédicte de Bourbon-Condé. La fiancée de 15 ans et demi est radieuse. Il faut savoir qu'une fille peut alors être mariée dès l'âge de 12 ans, même si la chose est très rare. Elle semble marcher sur des nuages et dévore du regard son fiancé, qui lui a 22 ans. Quand on pense aux réticences que le roi avait d'abord manifestées à l'idée de ce mariage, et voilà que, changeant d'avis du tout au tout, il a prévu pour son fils et sa future épouse des noces grandioses. Le lendemain, 19 mars 1692, un peu avant midi, la noce se rend en cortège à la chapelle où le mariage est célébré. En sortant de l'église, on se met à table. Puis il y a grande musique, grand jeu, grand souper, grand coucher des mariés qu'on ne laisse enfin tranquille qu'après 12 heures de cérémonie, de révérences et de compliments. Louise de Condé, qui vient d'épouser l'un des enfants naturels du roi Louis XIV, est née en 1676. Elle est la petite fille de celui dont on parle encore avec admiration, Monsieur le Prince, le héros, c'est-à-dire le grand Condé, prince du sang et l'un des plus grands généraux du grand siècle, contemporain du roi Louis XIV. Moins brillant, le père de Louise est seulement qualifié de Monsieur le Prince. C'est un petit homme très maigre, avec des yeux de feu, un être insupportable, un tyran fantasque et avare. Il dépense des sommes astronomiques à embellir son château de Chantilly et à éblouir les belles dames, mais chez lui, il dîne de la moitié d'un poulet et l'autre moitié lui est servie le lendemain. Sa femme est une malheureuse créature sans défense, petite et laide, un peu bossue. Inoffensive et très pieuse, elle lui a donné 10 enfants, dont la moitié est morte en bas âge. Ses enfants sont si petits que certains comparent l'hôtel de Condé au royaume de Lilliput. Les Lilliputiens, vous le savez, sont les personnages minuscules décrits dans les voyages de Gulliver, un livre à succès publié à peu près à cette époque. Monsieur le Prince est la terreur de ses enfants qui ne rêve que de se marier pour lui échapper. L'aînée a 22 ans quand elle épouse son cousin, le prince de Conti. Les trois cadettes frémissent de joie et d'anxiété en apprenant que le duc du Maine songe à elle et que monsieur le prince désire cette alliance. Le fiancé convoité n'est pourtant pas un parti glorieux pour les petites filles du Grand Condé. Il est le second des 9 enfants que Louis XIV a eus avec Madame de Montespan. Des enfants que l'on a d'abord cachés, puis montrés peu à peu à la cour, puis légitimés et autorisés en 1604 à porter le nom de Bourbon. La chose a d'ailleurs scandalisé la France. Monsieur le prince s'apprête donc à marier sa fille avec un bâtard légitimé du roi. Mais il ne veut en voir que les avantages. D'ailleurs, il a déjà marié son fils, monsieur le duc, avec une sœur du duc du Maine. Le duc du Maine, justement, il a passé son enfance à être malade. Il n'a dû sa survie qu'au dévouement de madame de Maintenon, alors simple gouvernante chez madame de Montespan. Ayant une jambe plus courte que l'autre, il a été un enfant boiteux et chétif, mais il était pétri d'intelligence et de malice en grandissant. Aimant à prendre, mais d'une timidité maladive, il aurait fait un parfait rat de bibliothèque si sa naissance ne l'avait pas obligé à faire des choses grandioses et héroïques. Il est un bâtard, timide et emprunté peut-être, mais un bâtard richissime, qui a hérité des biens de la grande mademoiselle, cousine de Louis XIV et femme la plus riche du royaume de France. Naissance mise à part, donc, monsieur du Maine est l'un des plus beaux partis du royaume. Son père, le roi, souhaitait qu'il ne se marie pas. Il pense que les bâtards ne devraient jamais se marier. On aurait bien pu en faire un prêtre. Mais madame de Maintenon avait tant insisté qu'elle finit par l'emporter et se mit à chercher autour d'elle une princesse. Les filles de monsieur le prince lui semblaient bien trop petites, la plus grande d'entre elles étant de la taille d'un enfant de 10 ans. Et les trois sœurs ont l'air de joujoux. Leur belle-sœur les surnommait d'ailleurs les poupées de sang, surnom qui leur allait à merveille. Alors madame de Maintenon va chercher ailleurs, mais bien inutilement, car les objections portant sur la taille des jeunes filles laissent le duc du Maine parfaitement froid. Après tout, n'est-il pas lui-même boiteux? Des 3 filles de monsieur le prince qui restent alors à marier, il choisit la seconde, Anne-Louise. La noce du 19 mars 1692 est fastueuse. La première semaine est un enchantement général. Mais, bien vite, madame du Maine comprend ce que sont les contraintes de la vie à la cour pour une femme de l'entourage du roi. Une grande dame doit toujours être prête à avoir envie de ce qui plaît au roi. Elle a faim et soif, chaud et froid, selon le bon plaisir de sa majesté. Malade ou bien portante, même enceinte ou relevant de couche, il lui faut être en grand habit de cour, décolleté et tête nue, voyager dans cette tenue et recevoir en souriant le soleil, le vent et la poussière, danser, veiller, souper de bon appétit, être gaie et avoir bonne mine, le tout aux jours et heures indiqués par le roi. La duchesse du Maine n'est pas prête à accepter ça et décide de se révolter contre ce qu'elle considère comme un esclavage. Elle envoie donc promener l'étiquette, les soirées officielles, les conversations soporifiques chez madame de Maintenon, les voyages en toilette de gala et les dînettes dans le carrosse du roi. Mieux encore, ou pire, elle décide de ne plus assister aux longs offices et aux exercices de piété qui sont à la mode depuis que Louis XIV est devenu un homme austère, pour ne pas dire bigot. Madame de Maintenon épouse Morganatic de Louis XIV. Un mariage morganatique, c'est un mariage clandestin. Madame de Maintenon donc est toute puissante à la cour et s'intéresse de très près à tout ce qui touche le duc du Maine qu'elle a élevé. Elle est abasourdie par la manière dont la jeune fille se moque de ses observations. Pour le reste, elle la décrit plutôt avec indulgence. Elle est jolie, aimable, gaie, spirituelle et par-dessus tout cela, elle aime fort son mari qui de son côté l'aime passionnément et la gâtera plutôt que de lui faire la moindre peine, écrit Madame de Maintenon. Portrait par trop flatteur. Car si la petite duchesse du Maine a de jolis yeux, elle a un visage poupin, des joues trop grosses, un nez un peu épais, le tout alourdi encore par une coiffure énorme sous laquelle, avec sa petite taille, elle semble disparaître tout à fait. Tout comme elle a échappé à l'influence de Madame de Maintenon, la petite duchesse du Maine ne tarde pas à échapper aussi à l'influence de son mari. Elle le domine, elle lui fait peur. Devant elle, il n'ose pas broncher. Elle est si convaincue de l'honneur qu'elle lui a fait en l'épousant que la timidité du pauvre homme en a redoublé. Et puis elle lui fait des scènes pour un oui ou pour un non. Il a donc pris le parti de ne jamais la contrarier et de lui obéir en tout. La poupée est en fait un démon. Et chacun découvre à la cour le caractère épouvantable de ce petit pousset des princesses. Elle est la femme la plus entreprenante, la plus audacieuse qui fut jamais, pleine d'esprit, vive comme la poudre, certes, tout cela est vrai. Mais elle est d'humeur impétueuse et inégale. Elle se courrousse, s'afflige, s'emporte et s'apaise 20 fois en un quart d'heure. D'une minute à l'autre, elle est capable de passer de la plus grande tristesse à la plus grande gaieté et de devenir fort aimable. Elle parle avec éloquence et surabondance. Devant elle, il n'y a qu'à se taire. Elle n'écoute jamais les autres. C'est par-dessus le marché un monstre d'égoïsme et un prodige d'amour-propre. Elle est convaincue que les princes sont faits d'une espèce à part, qui sont en quelque sorte des demi-dieux. Pour conquérir une situation digne de sa divinité, elle va entreprendre de pousser son boiteux de mari, puisqu'il est trop pusillanime, trop craintif, pour se pousser lui-même. Elle a 2 objectifs dans la vie, s'amuser et devenir l'un des principaux personnages du royaume, toute femme de bâtard royal qu'elle est. Or, s'amuser à la cour de France n'est vraiment pas d'actualité. Le roi, dans son grand âge, a pris le chemin de la vertu et il attend que tout le monde en fasse autant. La cour est d'un ennui mortel. Que faire? Se rendre au château de Clagny, propriété de son mari? Impossible. Clagny est bien trop près de Versailles et tout ce qui s'y passe reviendrait immanquablement aux oreilles du roi. La petite duchesse essaie donc, près de Sceaux, Châtenay. Grosse demeure appartenant à Malezieux, l'ancien précepteur de son mari. Ce monsieur passe pour un puits de science, et dans le salon de la duchesse du Maine, on l'écoute comme un oracle dont on boit les paroles. Il donne à la duchesse des leçons de latin ou d'astronomie, lui déclame des tragédies grecques et lui organise des fêtes, des ballets, de magnifiques feux d'artifice ou des spectacles nécessitant de somptueux décors. On se sent si bien chez Malezieux que le 20 décembre 1699, Monsieur Dumaine achète le château le plus proche de sa maison, le château de Sceaux, construit naguère pour Colbert. Niché dans l'un des plus merveilleux paysages des environs de Paris, le château, ses dépendances, ses jardins, ses pièces d'eau, constituent un ensemble aussi magnifique qu'harmonieux. La petite duchesse s'installe dans son royaume, son Olympe, et s'y entoure de courtisans de son choix, soucieux avant tout de lui plaire. Elle en oublie le reste du monde. Ici, le plaisir est un devoir et un travail. Elle s'amuse de jour, elle s'amuse de nuit, elle s'entoure d'amuseurs qu'elle paie pour avoir de l'esprit. Malezieux fait passer des examens aux postulants. Il leur donne un sujet sur lequel ils sont priés d'être drôles. La duchesse emploie des poètes pour l'encenser, la comparer à Vénus, la flatter, la qualifier de chef-d'œuvre des cieux, de nymphe de Sceaux. Interdiction d'être ennuyeux ou sérieux. On organise des loteries poétiques. Chacun tire une lettre au sort dans un sac. Celui qui tire le S doit composer un sonnet, le O une ode ou un opéra, le A une ariette, et ainsi de suite. Il faut s'exécuter sous peine de ne jamais revenir à Sceaux.
On n'avait jamais une heure devant soi pour être bête en paix.
Énigmes, devinettes, vers galants, gages, fables chansonnettes, dîners poétiques, couplets grivois. Il faut répondre et être à la hauteur. Quel soulagement pour ceux qui quittent Sceaux, de se retrouver chez eux à manger leur soupe en toute simplicité, sans qu'on leur demande un poème avant d'être autorisé à en avaler la première cuillerée. Malézieux en vient à surnommer Sceaux les galères du bel esprit. Il n'empêche que certains propos et saillies qui y sont échangés vont devenir célèbres, comme celui-ci.
Quelle différence y a-t-il entre une pendule et la duchesse du Maine ? L'une marque les heures, l'autre les fait oublier.
Et c'est encore à Sceaux, pour racheter un gage, que Voltaire écrit la fameuse énigme.
5 voyelles, une consonne en français, composent mon nom, et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon.
On laisse à la duchesse du Maine la gloire d'apporter la réponse qui est « oiseau ». La petite duchesse prend tout cela très au sérieux. Elle fonde dans son château de Sceaux l'ordre de la mouche à miel, un ordre qui a des statuts, des officiers, un serment que l'on prête sans rire et que voici.
« Je jure fidélité et obéissance à la directrice perpétuelle de l'ordre, de porter toute ma vie la médaille de la mouche et d'accomplir tant que je vivrai les statuts de l'ordre. Et si je fausse mon serment, je consens que le miel se change pour moi en fiel, la cire en suif, les fleurs en ortie, et que les guêpes et les frelons me percent de leurs aiguillons. »
Madame du Maine a aussi la passion de jouer la comédie. Alors elle apprend la plupart des grands rôles du répertoire de son temps. Et elle joue tout, la tragédie, la comédie, la farce. Elle fait tous les rôles, que ce soit celui d'une simple servante ou le rôle d'Athalie. Elle se donne un mal incroyable. Saint-Simon l'a raconté.
On ne comprenait pas la folie de la pratique de s'habiller en comédienne, d'apprendre et de déclamer les plus grands rôles et de se donner en spectacle public sur un théâtre.
Monsieur du Maine sentait que sa femme se rendait un peu ridicule, mais il n'osait pas la contredire, ayant toujours peur des scènes. Le problème dans tout cela, c'est que Madame du Maine n'est guère récompensée de ses peines parce qu'elle s'ennuie. Entre 2 grossesses, elle aura 7 enfants, dont 3 seulement survivront. Plus elle travaille à se divertir, plus elle s'ennuie. Les nuits, surtout, lui pèsent particulièrement parce qu'elle est insomniaque. Son insomnie chronique va donner naissance aux fameuses grandes nuits de Sceaux, des nuits blanches passées en chants, danses, pièces de théâtre, à la gloire de la duchesse. Toutes ces fêtes, ces futilités, qui semblent l'absorber complètement, dissimulent en fait une ambition politique qui ne s'est jamais relâchée. Jamais depuis son mariage, elle n'a oublié qu'elle s'est engagée à devenir l'un des premiers personnages du royaume. Et jamais elle n'a cessé un instant d'y travailler. Cette ambition sera-t-elle récompensée? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à la duchesse du Maine, belle-fille de Louis XIV.